I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
Julien,
ce sera Julien. Oh, bah oui, je sais que ce sera Julien.
Mais oui, parce qu'il va le démastiquer un peu, puis on va passer derrière à faire Good Cop, Bad Cop. Là. Bad Cop, Good Cop.
On va faire Bad Cop, Bad Cop, Bad Cop, ça va être super.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, on l'a déjà dit, conservera à jamais malgré les affres de l'âge et du temps qui passe inexorablement une vigoureuse âme d'enfant qui nous pousse à regarder de près ce qu'il se passe du côté du dessin animé, de l'animation, de toutes ces choses parfois regardées de haut mais qui pour nous valent souvent tout à fait autant le coup que le live action classique. Aussi c'est avec impatience que nous attendions le dernier né des studios Aardman, créateur géniaux de Wallace et Gromit, ça s'appelle Cro-Man, et on va en causer avec le trio en chair et en os réuni ici à l'antenne Paris, Julien Dupuis, salut Julien.
Salut.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Charline Roux, salut Charline.
Réveille salut
Charline.
Thomas.
C'est Nos Ciné, épisode 120, et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Charline dort sur son micro, ça tu
ne sais pas. Non, je faisais un petit câlin, je faisais un petit câlin bonnette, c'était sympa.
Un petit somme bonnette. Cro-Man, Early Man en VO, c'est l'histoire de Doug, homme préhistorique assorti d'un sidekick, c'est pas facile à dire, baptisé Crochon, c'est comme ça, qui est donc un cochon préhistorique, lui aussi. Et tous deux vont se voir confrontés à la brutale évolution du monde lorsqu'une tribu de l'âge de bronze plus moderne, donc, débarque pour conquérir la vallée où ils s'égayent tranquillement. Et forcément, ils vont pas se laisser faire aussi facilement.
Si on gagne, ils nous laisseront vivre en paix dans notre vallée.
Oui, mais si jamais on perd.
Oui, alors là, ils nous feront travailler au fond d'une mine jusqu'à la fin de notre vie.
Non ! C'est quoi une mine ?
Et on l'a dit, c'est Aardman qui produit et donc c'est Nick Park qui réalise. Nick Park qui est l'un des créateurs de Wallace et Gromit. Qu'en avez-vous pensé ? Chers amis, Julien, je te passe la parole en premier parce qu'aucun des deux autres ne veut commencer, donc c'est toi qui commences du coup.
Merci, merci les
ils
amis.
Ils ont demandé hors antenne.
Non, c'est très gentil, j'apprécie énormément.
Tout le monde repose sur ton expertise, ouais, ouais. Julien.
Moi, je pense que déjà, il faut parler de la problématique du passage au long métrage chez Aardman, ouais. Qui est sur deux temps en fait. Il y a d'un côté en fait la problématique de la production, c'est-à-dire que Aardman n'a pas les épaules en fait pour produire un long métrage, serait trop dangereux pour eux. Et du coup, ils ont été toujours contraints de faire des mariages un peu contre nature qui ont abouti à des choses et parfois des aberrations. Au début, ils étaient avec DreamWorks, après ils sont partis chez Sony Pictures Animation et là ils sont partis chez Studio Canal qui est une structure disons plus petite, enfin en tout cas qui a moins la main mise en fait sur l'animation comme c'est le cas chez Sony, etc. Sony, ouais. Et moi j'avais beaucoup beaucoup d'espoir en fait sur cette collaboration après avoir vu Shaun le Mouton, parce que je trouvais que là ils avaient enfin un espace de liberté de création qui était très intéressant.
Mais quand tu parles d'aberration, tu penses à quoi?
Je pense à Souris City par exemple, je pense à leur film sur le Père Noël aussi dont le nom m'échappe.
Oui,
rien que le fait voilà qu'ils aient été amenés, alors c'est peut-être une volonté de d'Aardman pour le coup, je sais pas exactement, mais qu'ils étaient amenés à faire de l'image de synthèse, c'est n'importe quoi,
c'est contradictoire avec la nature même de leur projet.
Pirate, bon à rien, mauvais en tout, qui n'est pas un très mauvais film en soi, ça reste quand même pour moi une aberration de production parce que c'est surproduit en fait. Aardman n'a pas sa place là en fait. C'est-à-dire que c'est les chefs-d'œuvre d'Aardman et de l'animation sont des films plutôt resserrés en fait.
Oui,
plus modestes. Ce qui m'amène d'ailleurs, et merci pour cette transition que tu m'as offerte, Thomas Rozek, c'est là qu'on voit que tu es un professionnel, c'est quand même très
bon
impressionnant.
Métier.
C'est là que ça m'amène à cette deuxième problématique qui est la problématique du passage au long. Oui. C'est-à-dire que moi je pense que Aardman, par son mode de fonctionnement et en particulier le grand maître d'œuvre qui est pour moi quand même Nick Park, qui est vraiment celui qui leur a offert leur chef-d'œuvre et notamment les courts-métrages de Wallace et Gromit, le fonctionnement d'Aardman pour moi est lié en fait aux courts-métrages et ça n'a rien d'avilissant en fait de dire ça. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont dans leur énergie, dans leur façon de concevoir les gags, quelque chose qui tient finalement plus pour moi du slapstick muet. C'est-à-dire que il y a une énergie qui moi me rappelle plus les finalement les films très courts ou très resserrés de Buster Keaton. Et c'est pareil, je pense que du coup ils avaient trouvé un compromis avec Shaun le Mouton qui était quasi un film muet en fait, qui était même un film muet et où du coup ils étaient en fait conduits à retrouver justement ce minimalisme et un humour purement visuel qui pour moi nourrit particulièrement Hardman. Et je trouve même d'ailleurs que quand il faisait des courts-métrages, enfin il continuait à faire des courts-métrages, mais je pense vraiment aux courts-métrages par lesquels on les a connus, en tout cas en France, avec ces anthologies qui avaient été distribuées en France. Je trouve que c'est dans les films muets, quand ça se mettait à parler, ça fonctionnait un petit peu moins bien. Donc voilà, tout ça pour dire que moi j'avais beaucoup d'espoir après Shaun le Mouton et que la déception de ce film a été d'autant plus grande. C'est le retour de Nick Park à la réalisation. Moi, c'est définitivement celui que je suis le plus chez Hardman. J'aime beaucoup Peter Lorre, par exemple, etc. Mais bon, je trouve quand même que Nick Park, c'est celui qui porte l'âme et qui a complètement défini l'âme d'Hardman, ce qui est complètement paradoxal quand on connaît l'histoire du studio, parce que c'est pas lui qui a l'origine et à la création du studio, mais c'est lui qui leur a offert leur mascotte notamment. Et là, c'est complètement raté. J'ai l'impression que c'est raté comme... moi, j'avais presque l'impression de voir un mauvais film DreamWorks Animation, en fait, en voyant le film. C'est-à-dire que un mécanisme dans les rires extrêmement... dans l'humour, en tout cas, extrêmement artificiel, qui, pour moi, tombe systématiquement à plat. Un discours extrêmement tiédasse sur le fond du film... puisqu'il y a une amorce en fait sur le discours du foot, des dérives du foot tout fric, qui ne mène finalement à rien.
Parce que le conflit va se régler par un match de foot.
Voilà, exactement, et avec un match de foot et un tournoi qui est géré par un mec qui ne pense qu'au pognon en fait, en gros, qui a perdu l'essence même du foot. La déception est venue encore plus totale pour moi quand j'ai vu que le grand rendez-vous cinématographique, parce que c'est ça aussi Hardman, c'est aussi des rendez-vous cinématographiques dans le sens où il s'empare en règle générale d'un genre en soi. Nick Park, c'est un mec qui est extrêmement cinéphile et qui s'est nourri et qui a nourri ses films de références à des films qui sortent en général du giron de l'animation pure, qui ramènent là-dedans dans l'animation qui reformate
la science-fiction, l'horreur dans Wallace et Gromit notamment,
mais même la comédie romantique il y avait un truc qui était super intéressant à visiter, parce qu'en plus je trouve que c'est un sous-genre qui a été un petit peu oublié, qui est le film de préhistoire, je crois pas qu'il y ait de terme en fait là-dessus, mais qui vont du film de la Hammer avec Raquel Welch, Un million d'années avant Jésus-Christ, à Quand les dinosaures dominaient le monde, à Caveman, on peut dire là aussi La guerre du feu, etc. Et qui est un genre pour moi absolument fascinant, qui d'ailleurs je trouve un peu sous-exploité, c'est dommage.
Les films avec Ben Johnson, enfin tout ça quoi.
Exactement, par exemple. Bon, bref. Non, mais tu es en train de me déconcentrer là, mais tu n'y parviendras pas. Il y a des petites amorces en fait là-dessus, mais qui sont pas amenés à leur terme. C'est-à-dire que par exemple tout l'aspect le bestiaire monstrueux en fait du film est vachement en arrière-plan, ils font pas grand-chose là-dessus, ils font pas grand-chose non plus sur les costumes des personnages. Pour moi la seule satisfaction, c'est que je trouve que la DA est quand même très très belle. Je trouve que l'animation est très belle, mais là aussi c'est contrebalancé par autre chose, c'est que je trouve, et là je pense que c'est dû aussi au système de production avec Studio Canal, peut-être qu'ils ont eu un peu moins d'argent que dans Pirate, c'est que je trouve que l'ajout des effets numériques qui était vraiment nickel dans Le Lapin Garou et dans Pirate, bon, rien mauvais en tout, et là pour moi je trouve c'est assez embarrassant. C'est-à-dire qu'il y a des incrustations de feu qui sont dégueulasses. Il y a des foules numériques de personnages animés qui sont vraiment pas belles. On voit les cycles d'animation comme ça qui défilent, etc. Ça m'a gâché un peu le plaisir. Et c'est dommage parce que l'animation en elle-même est plutôt plaisante. Et il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est une volonté de Nick Park, mais mes deux collègues qui l'ont interviewé pourront peut-être répondre là-dessus. Mais il y a un retour au plus tactile, en fait. C'est-à-dire que les personnages sont un peu plus rough, notamment dans leurs membres, en fait. Chez les hommes préhistoriques purs, en fait, qui sont en gros des boules de fourrure avec les quatre membres qui sortent, et notamment dans les jambes et tout, il y a un truc très très rough où on ressent à nouveau le côté extrêmement tactile qu'on perdait totalement dans un film trop policé comme Les Pirates, bon, rien mauvais en tout.
Voilà, en gros.
Charline.
Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. J'aime assez la ferveur du film. C'est-à-dire que cette idée des hommes préhistoriques, c'est une idée que Nick Park mûrit depuis un certain temps, puisqu'il dit que les premiers croquis qu'il a retrouvés, où il dessinait déjà les hommes préhistoriques qu'il voulait mettre en scène, dataient d'il y a une bonne dizaine d'années. Et en fait, c'est ça qu'il a décidé à passer le pas et à réaliser tout seul, parce que jusqu'ici, il était en Coréal sur les longs métrages. Donc, c'est son premier à lui tout seul. Je trouve que la piste.
Il est en Coréal quand même, non ?
Non, non, il est tout seul.
Il est tout seul.
En fait, juste pour un parallèle, ils ont souvent des Coréales, mais en fait, c'est un. Parce que par exemple, tous les films Pixar sont coréalisés aussi. Mais là,
il en parle comme étant d'un truc perso qu'il a voulu mener à bien. Enfin, je sais pas, Stéphane, si tu as dit la même chose.
Non,
mais
il m'a pas parlé de ça.
Il m'a pas parlé du tout.
On s'est battu.
Je trouve l'analogie. Alors, on va me dire facile, moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. L'analogie, les hommes de Cro-Magnon, les footballeurs, assez fabuleuse.
Ah bah voilà, bravo, super.
Ça va, on peut dire ce qu'on veut. Pitcher le film comme un mélange entre Gladiator et Dodgeball, je trouve qu'on n'en est pas très très loin dans l'esprit en fait. Et effectivement, le point sur lequel je suis d'accord avec toi, c'est que le fait que ce film soit un des films les plus bavards des studios Hardman pose un souci parce que c'est pas là qu'ils sont les meilleurs. Effectivement, tous les gags visuels sont toujours plus réussis que les gags de Van. Après, je pense qu'il se pose aussi le problème de la version dans laquelle on voit le film. Moi, je l'ai vu en version française, qui est plutôt très bien faite.
Oui, moi aussi, il faut le dire.
Et alors, le truc, c'est que la version originale, le rôle-titre, c'est Eddie Redmayne, et le méchant, c'est Tom Hiddleston, et le méchant, dans la version anglaise, est français. C'est-à-dire qu'on joue sur des codes à la Clouseau, à la Monty Python, etc., qui sont du coup pas du tout exploités en France. C'est-à-dire qu'on a un méchant qui est assez monolithique, du coup. Peut-être ça fait partie des trucs qui rendent les dialogues un poil moins savoureux, même si Niney fait le job hein, dans le perso principal, je trouve. Et l'intrigue sur le football n'est pas si mal menée que ça. Moi, je trouve qu'il y a des twists qui ne sont pas inintéressants, de se rendre compte que le meilleur joueur de l'équipe, celui qui est susceptible de les amener à la victoire, n'est pas du tout un homme de Cro-Magnon et pas du tout un homme tout court, en fait. Je trouve ça toujours plutôt intéressant dans ce genre d'intrigue. En fait, on ne l'attend pas forcément là. Après, je trouve que c'est bizarrement, alors que l'intrigue ne l'est pas, un des plus enfantins, c'est-à-dire dans le sens où c'est peut-être un de ceux qui sont le plus destinés aux enfants et qu'aux enfants, et un peu moins aux adultes. C'est-à-dire que c'est très linéaire, très premier degré. J'ai pas trouvé que c'était un ratage. C'est certes pas mon préféré des studios Hardman, mais je ne serais pas aussi dur que toi sur le sujet.
Et je trouve assez beau.
Et le côté un peu rough des personnages, oui, c'était voulu, en fait. C'est pour revenir à ce truc. Je crois que Cro-Magnon, enfin, le principe du Cro-Magnon a entraîné ce côté un peu boule de poil et terre glaise.
Puisqu'on bleu poil et terre glaise, la transition est toute trouvée pour parler de Stéphane.
Ouais. Là où je suis d'accord avec Julien, c'est que ça serait un DreamWorks animé en image synthèse, je le regarderais même pas en fait. C'est un peu le souci du film en fait, c'est que moi, la comédie préhistorique, c'est quand même un truc qui existe dans l'animation depuis. Enfin, les pierres à feu, quoi. On remonte quand même à loin, quoi. Et cette espèce de décalage avec la société moderne, la société de l'époque, etc., etc., il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mmh. Donc c'est vrai que moi aussi, j'aurais préféré aborder le film comme Shaun le Mouton a été abordé, c'est-à-dire que ce soit des personnages qui ne parlent pas, comme dans la scène d'ouverture, d'ailleurs. Hein, en fait, la toute première scène où tu les vois en train de jouer, découvrir le foot, et créer le foot, entre guillemets, c'est une scène avec des vrais Cro-Magnons, pour le coup. Et voilà. Et là, le film joue sur... la lutte des classes, entre guillemets, parce que c'est en passage entre l'âge de pierre et l'âge de bronze. Donc oui, il y a un discours sur le capitalisme, oui, il y a un discours sur la lutte des classes, etc., etc., qui est effectivement très léger. Le référencement cinématographique, parce que ça, j'en ai parlé pour le coup un petit peu avec Nick Park. Effectivement, il a parlé de Gladiator, hein, ce sur lequel je n'ai pas rebondi exprès. voilà. Mais bon, il y a une citation de Die Hard en direct, donc bon, on peut pas lui en vouloir.
Du coup, c'est bien. Du coup, c'est super.
Donc voilà, tout va bien. Non, mais le problème du film, il est là en fait. Moi, j'ai pas un problème avec la facture technique du film. Elle m'a pas du tout, au contraire, c'est même ce qui me vend moi le fait de tenir une heure et demie sur un film comme ça en fait. C'est-à-dire que si c'était pas fait en stop motion, voilà, tout simplement, ça ne m'intéresserait pas. Et il faut quand même reconnaître qu'effectivement, c'est quand même hyper, hyper chiadé. Tu parlais du budget. Il me semble que c'est un budget de 50 millions de livres, hein, quand même. C'est pas dégueulasse.
Je crois que c'est un de leurs plus gros budgets, si je dis pas de bêtises.
Je trouve que les réserves sur le résultat technique est d'autant
l'argent.
Plus...
Mais où est le pognon, Nick Park ?
Après, il a peut-être été fait plus rapidement. C'est aussi ça le truc. C'est-à-dire que c'est quand même un travail d'orfèvre. Les mecs, ils prennent un temps fou. Et les choses, pour rebondir sur tes questions, là où il a parlé effectivement un petit peu de dans l'animation, c'est que lui, il aime le côté... en fait, il aime avoir les doigts sur la plasticine, sur les personnages. Il aime qu'on sente ça, en fait. Il aime qu'on sente que les personnages sont animés comme ça. Moi, je ne le savais pas, mais pour l'anecdote, en fait, c'est lui qui mime. parce que je lui demandais comment on dirige ces personnages-là, en fait, pour les animateurs. Et en fait, c'est lui qui mime littéralement les expressions.
Il me semble qu'on voit ça dans des bonus sur un des DVD de Wallace et Gromit. Il me semble qu'il y avait eu un docu sur Hardman à l'époque où était sortie la première anthologie au cinéma et qu'on voyait justement Nick Park mimer. Et c'était assez dingue.
Ouais. Et le truc, c'est que voilà, le vrai manquement pour moi du film, c'est un manquement de mise en scène, en fait, effectivement, parce que il y a quand Julien parlait de Buster Keaton. Du cinéma muet en fait, qui est vraiment un gros référencement pour Wallace et Gromit et tous les cours en fait. Ce qui est assez évident, c'est que du coup ils sont obligés, et je trouve que le principe même de faire un film en stop motion peut pousser à cette perfection là en fait, d'être extrêmement précis en mise en scène. Parce que le film n'est pas vraiment là, et c'est un peu dommage quoi. Donc il y a de l'humour qui est de l'humour de situation sociale en fait, je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire c'est vraiment un truc où on va dire bah voilà, c'est les hommes de Cro-Magnon, mais nous spectateurs, nous sommes dans notre société moderne, donc le décalage, on joue avec ce décalage là. Voilà, il y a quand même,
il y a des blagues de foot aussi quand même un peu sur les travers,
ce qui m'intéresse pas trop moi non plus, mais bon voilà. Et le truc, c'est que
vous êtes désespérant.
C'est
une plaisanterie, Stéphane. Calme-toi, Stéphane.
Non, mais je me calme, je suis très calme.
Pose
mais
cette
ce que je veux dire, c'est que tu vois, t'es pas obligé de rigoler. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, c'est pas nouveau. Didier, il y a 20 ans, il y avait des blagues de foot. Enfin, voilà,
ouais,
c'est pas des
bien.
Nouveaux. Oui, c'était sympa, mais enfin, c'est pas le meilleur moment. Bref. Et donc, ce que je veux dire, en fait, voilà, c'est que le retour de Nick Park, justement, à cette. À l'idée de faire un long métrage, en fait, Hardman, effectivement, devrait pousser l'excellence, en fait, du studio.
Ça,
quoi.
C'est sûr.
Et là, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas parce qu'effectivement, comme je crois que c'est toi qui le précisais, en fait, quand il arrive à faire rentrer en fait des éléments de, comment dire, de même référentiels, hein, comme la Hammer dans le Lapin-Garou, on s'y attend pas, et ça donne quelque chose de totalement nouveau. Là, en fait, tout est attendu. Il y a un bon gag qui m'a fait marrer, mais parce que c'est un personnage en fait, mais c'est pareil, c'est un personnage d'animation, hein, c'est le canard géant. La première fois où il lui jette le truc parce qu'il a une tête, voilà, mais c'est un truc d'animation en fait pur, c'est-à-dire que c'est à la fois dans du Harryhausen like, mais en même temps en fait du comment dire. Un pur personnage à la Pixar, en fait, avec un canard avec une tête de débile, des dents écartées, et des yeux qui louchent. Et du coup, juste le voir au ralenti se retourner, faire comme ça, ça m'a fait marrer. Puis,
tu fais hyper bien le canard à la
Tu fais bien.
C'est lui qui l'allait mimer, en fait.
C'est moi qui t'arrête mal, en fait.
C'est pour ça.
Et tu disais, Park fait les mimiques pour l'animation, et c'est lui qui double Crochon en VO, en fait.
Oui, je voulais revenir sur la VF aussi, parce que c'est vrai qu'on l'a vu comme ça, et le problème c'est pas que ce soit Pierre Niney, qui est en soi plutôt un bon acteur, mais qui fasse le rôle, c'est qu'en fait il est pas dirigé par Nick Park, donc c'est un peu les problèmes des VF de manière générale. Et deuxièmement, en fait, c'est un doublage en France, c'est quoi, c'est une semaine de travail pour le doubleur, alors que pour un film entier ça prend plus de temps et c'est beaucoup plus travaillé quoi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est dirigé par les gens qui ont écrit le scénario et qui
c'est surtout que l'animation Julien est calée sur le jeu du mec, sur le jeu en général, d'un comédien, le mec pendant qu'il est en train d'enregistrer ses dialogues et qu'il cale aussi l'animation
son tempo aussi,
sur le personnage. Mais on est sur un débat beaucoup plus général, mais ça montre aussi toute cette problématique d'appréciation en fait de l'animation en règle générale.
Dans l'exploitation, n'est pas forcément traité comme le cinéma.
En tant que critique, on a la chance de pouvoir voir les films en quasiment toujours en VO, et souvent l'animation, c'est compliqué de les voir en VO. Pourquoi sur l'animation,
parce qu'ils rajoutent une star à la con je me rappelle les premiers trucs, c'était quoi, c'était pas un film d'animation, mais c'était un film pour enfants, c'était Super Noël, je crois, comme ça, c'était avec pourtant t'avais exactement l'âge d'aller voir ce film, Thomas Rozek à l'époque, avec Nagui,
c'est sorti
avec Nagui qui faisait la voix de Tim Allen. Et tu te dis, d'accord, pourquoi ? Parce que.
1994, effectivement, j'avais à peu près l'âge.
Voilà.
Je regardais Alien plutôt à l'époque.
Genre.
Non, c'est pas vrai. C'est complètement faux. J'avais 8 ans. C'est
t'allais voir
l'Indien
dans la ville.
Ouais, grave, j'avais kiffé à fond. J'avais même le single. Bref, on s'en fout. Avant de se quitter, on ne déroge pas à la règle, c'est l'heure des recommandations. Vous avez comme toujours le champ libre. On peut rester dans l'univers de la claymation, du stop motion, des studios Hardman, mais c'est comme vous voulez, Julien.
C'est moi qui commence aussi
là-dessus. Bah ouais,
tu
sais, du coup.
J'avais pas pensé, mais tu parles de Claymotion. Il y a un auteur qui reste quand même encore à découvrir, parce que j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu oublié, qui est Will Winton, qui est le roi de la Claymotion totale. Qui était le studio Laika là, qui nous a offert Kubo par exemple, et son ancien studio en fait. Et si vous avez vu Moonwalker, le film avec Michael Jackson, toute la séquence d'animation a été faite par Will Winton. Il a fait un long métrage, il a fait plein de cours, etc. Je vous invite à découvrir son travail parce que c'est vraiment fabuleux. Mais moi j'avais prévu une reco
comme
en fait,
toujours Julien depuis Hartman, oui, deux recommandations voilà, pour exactement. Le prix d'une.
Et peut-être des cours qui sont un peu moins connus d'eux et qui sont très sympathiques, qui sont réalisés d'ailleurs par un de leurs cinéastes en fait, mais qui avait travaillé sur Shaun le Mouton, mais la série, pas le long métrage. Et ce sont des petits cours d'une minute qui avaient été conçus dans le cadre de DC Nation, qui était une série en fait, une anthologie en fait de courts métrages sur les personnages de DC, donc Batman, Superman, etc. Fait par des cinéastes du monde entier. Et Hardman avait fait une série de cours qui faisait un petit peu penser au cours de Nick Park, qui avait été oscarisé Créature Comme forte. Alors je me rappelle plus du titre en français, mais enfin c'était le concept, c'était Nick Park qui était à l'interview en fait des gens dans la rue qui parlaient de leur ville, et puis il avait mis leurs paroles dans la bouche d'animaux qui étaient dans des zoos. C'est un court métrage quand même qui me semble être très très connu. Donc c'est un peu sur le même principe là, c'est des enfants qui parlent et on remet en fait leurs paroles dans la bouche de Batman, Robin, Superman, Catwoman et le Joker. C'est très court, c'est tout petit court, c'est assez absurde. Visuellement c'est splendide ça te donne envie en fait d'en voir plus, d'en découvrir plus, et je pense que c'est peut-être pas le truc le plus connu en fait de Hardman.
Voilà. Certainement pas. Stéphane. Ok, merci
tout
Stéphane.
Tout est toujours mieux avec la stop motion, avec les marionnettes, avec tout ce que tu veux, etc. Donc, pour moi en tout cas, et quand j'étais gosse en fait, j'ai découvert, comme beaucoup je pense de gosses de ma génération, on avait pu découvrir Le Dragon du Lac de Feu. Et le film n'est pas formidable. Enfin, bon, ceci dit, c'est mieux que n'importe quel film d'heroic fantasy qui est sorti après Le Seigneur des Anneaux.
C'est quand même assez honorable.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas au niveau de sa créature, en fait. Parce qu'il y a, il y a un dragon qui est. Alors tu me corrigeras peut-être, c'est Phil Tippett, je crois, c'est ça qui est.
Phil Tippett, Denis Mann.
Voilà, qui fait un travail de malade, en fait. C'était une coprod Disney. Qui est un petit peu plus violente que les films Disney de l'époque, dans mon souvenir, quoi. Et voilà, donc c'est surtout, moi je le conseille surtout aujourd'hui pour Le Dragon, qui est toujours, je trouve, majestueux, rarement égalé, à part peut-être dans Cœur de Dragon, non, je déconne. Mais à part
Eragon.
Peut-être.
Non, c'est pas ça, non.
En présent, c'est ton dernier.
à part peut-être dans le Hobbit, quoi. Mais voilà, donc c'est assez. Je ne parlerai
Philippe
pas de.
Philippe Noiret qui avait fait la voix de Cœur de Dragon, d'ailleurs, ça me revient.
Mais Cœur de Dragon, tu avais dû voir à l'époque aussi, Thomas, parce que c'est ton âge, hein, c'était ton époque.
Grand cinéaste.
T'es gentil, c'est ça. Cœur de Dragon, non, je n'ai jamais vu Cœur de Dragon. J'ai vu Le Dragon du Lac de Feu qui est sorti bien avant ma naissance, mais.
Ouais, ça date de 82, je crois.
80.
Ouais. Voilà, que j'avais découvert sur Canal quand j'étais gosse. Quoi. Voilà.
C'est bon ce que tu voulais regarder sur Canal.
À ce temps-là, il n'y avait pas. C'était quoi? C'était une blague sur les boulards?
Ouais,
il n'y avait pas de boulard à ce temps-là.
Non, mais c'est bon. Oh, tu prends tout mal.
Non, je n'étais pas si innocent que ça. Mais
ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Charline.
Moi, j'assume d'être là pour le quota connerie. Donc, du coup, je vais rester sur le film de préhistoire parce que tu sais pas ce que je vais dire. Je vais recommander d'Alain Chabat plutôt que d'écraser ce pauvre Early Man de référence avec lesquels il ne peut pas rivaliser en termes de film de préhistoire.
Je préfère préconiser
celui-là qui a été très mal aimé à sa sortie, qui en fait se revoit très très bien tellement les gags sont nuls, les jeux de mots sont pourris que ça en devient absolument délicieux. Je vous mets au défi, si je vous dis ça va être tout noir, personne ne va me dire ta gueule maintenant.
Si, ta gueule.
Ah bah voilà, donc c'est tout.
Moi j'ai ri aussi.
Voilà.
J'ai essayé de le revoir, il est sur Netflix là.
Et
quand il est plus là au bout de
Guy.
Mais moi les Robin des Bois déjà c'est pas possible, hein. C'est vraiment.
Ah ouais, tu vois, tout ce qui nous sépare. Love Actually et les Robin des Bois.
Ça fait beaucoup.
Ça fait pas tant que ça.
Non, ça fait pas tant que ça finalement, ça va. Donc c'est assez correct. Tiens, moi je vais faire une petite reco aussi. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur montrer la série animée qui s'appelle Voici Timmy, qui est une série télé créée par Nick Park.
C'est Shaun le Mouton, Timmy, qui est dans Shaun le Mouton, je crois, le film.
C'est ça.
C'est Shaun le Mouton, mais pour les plus petits.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour les tout petits. Ça se passe dans une école. Mmh. C'est hyper drôle. Mmh. C'est pareil, c'est muet. C'est du slapstick essentiellement. C'est très, très mignon. Et en même temps, c'est assez drôle. C'est assez vénère, comme peuvent l'être les trucs Hardman. C'est dispo sur Netflix. C'est franchement très marrant si vous avez des enfants petits et que vous les laissez accéder à la télévision parce que vous n'êtes pas très des bons parents, c'est ça qu'on dit.
Parce que vous avez des trucs à faire aussi,
fatigué,
ça peut arriver.
Ouais, ça arrive. Voilà, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. En attendant, on vous dit à très vite.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit ?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, on peut les acheter et pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.